de nouvelles internationales.
Absolument.
Et d'une grosse démission.
Ah oui, oui.
Boris Johnson qui démissionne,
le secrétaire des affaires extérieures.
Et responsable du Brexit.
Ouais. C'est lui qui est responsable, enfin qui a porté le Brexit sur ses épaules et qui l'a négocié aussi. Ouais. Ça ouvre une véritable crise en Grande-Bretagne. Et en plus, c'est la troisième démission d'un ministre en 24 heures. Parce qu'avant ça, tu avais Davis qui était le ministre du Brexit qui a démissionné. Et Steve Baker, qui était son adjoint, qui avait aussi un rang ministériel, qui a démissionné. Pourquoi est-ce qu'ils ont démissionné? Parce qu'ils ne sont pas d'accord, évidemment, avec l'approche de Mme May. Ils disent, écoutez, on sort de l'Union européenne, puis c'est comme si on ne sortait pas. Mmh. L'Union européenne conserve, à notre avis, beaucoup trop de pouvoir sur l'Angleterre. On ne veut pas ça, on n'est pas d'accord avec vous. Ce n'est pas un bon plan. Et donc, ils s'en vont. Mais Mme May se retrouve véritablement dans une position extrêmement difficile.
Ouais.
C'est possible qu'il y ait un vote de confiance contre elle d'ici 24 heures. Et s'il y avait un vote de confiance, devine qui pourrait lui succéder.
Boris Johnson, ben oui.
Alors, c'est un petit peu particulier comme crise. Mais tu sais, même les alliés européens, je ne sais pas si tu te souviens de cette réunion qu'il y a eu une semaine, ils disaient à Mme May, écoutez, ça fait dur, votre affaire.
Ouais.
Faites quelque chose, parce que nous, on est en train de... Quoi qu'il arrive, on va se séparer de vous. On vous aime bien, mais il n'y a pas grande négociation. Il n'y a pas grand-chose que vous avez négocié jusqu'à présent.
Mmh. Alors là, ça va se transformer en véritable crise politique.
C'est une crise politique. Ouais, ouais. Et tu sais, on en reparlera tout à l'heure, mais tu as quelqu'un qui vient visiter tout ce beau monde en plein milieu d'une crise politique. Tu as Donald Trump qui arrive, je crois que c'est jeudi, qui vient visiter tout ce monde. Il va aller aussi voir la reine, etc. Et il va aller jouer au golf, parce qu'il y a des terrains de golf en Écosse. Mmh. Donc ça, c'est le grand objectif. On en reparlera peut-être tout à l'heure.
D'ailleurs, il avait même survolé son terrain de golf à un moment donné avec son avion.
Oui, oui. Et tu sais qu'il va être en hélicoptère parce qu'il y a trop de gens qui le contestent. Alors, il va se déplacer en hélicoptère. Il n'aime pas ça que les gens soient contre lui.
Okay.
Il ne veut pas que ces images-là circulent.
Bon, alors...
Mais donc, en crise en Angleterre. Voilà, à suivre.
Et autre crise, celle-là, vraiment très importante à Haïti où depuis vendredi. Plus précisément, là, au moment où il y avait le quart de finale de la Coupe du Monde, le match du Brésil. Ils se sont dit, bon, tout le monde va regarder le match, fait qu'on va annoncer des mauvaises nouvelles.
Oui, une petite hausse du prix de l'essence, juste 38% d'un seul coup.
Ouais.
Les Haïtiens sont furieux, ils sont descendus dans la rue. C'était demandé, il faut dire, par le Fonds monétaire international, qui, comme d'habitude, tu sais, brille par des politiques économiques plutôt imbéciles. Mmh. Je veux dire qu'ils ne tiennent pas du tout compte de la réaction des gens et de ce que ça va faire aux gens ordinaires. Alors donc, samedi, le gouvernement a été obligé d'annoncer la suspension temporaire de la hausse sur l'essence. Mais ça fait rien. Les gens ont continué à descendre dans les rues. Ils demandent la démission du président Jovenel Moïse. On pille des magasins partout dans la capitale Port-au-Prince et pour tout, de la nourriture. Ouais. Les gens ne sont pas riches. On incendie des autos. Il y a des barricades. Il y a une menace de grève nationale qui pèse sur tout le pays. Et à tel point que, tu en as sans doute parlé à midi, le Canada demande à ses citoyens de ne pas se rendre en Haïti, comme d'autres d'ailleurs,
sauf
en
cas d'extrême
nécessité. Ouais. Mais je veux dire, le fond du problème, il faut le répéter, et ils n'aiment pas s'entendre dire ça, c'est que les élites haïtiennes sont en très grande partie incompétentes et très corrompues. Il ne faut jamais oublier que ce pays est un des trois pays au monde où il y a les plus grands écarts de richesse entre les riches et les pauvres. T'en as qui s'en mettent plein les poches en Haïti depuis des décennies. Et je comprends ces gens de se révolter comme ça. Je ne suis pas sûr que ça débouche cette fois-ci sur une révolution, mais des révoltes comme ça, à mon avis, en Haïti, ça ne fait que commencer. Ouais. Il va y en avoir de plus en plus.
Mais, et puis, ce qui choque encore plus les gens, parce que ça, ce qu'on m'a expliqué, c'est que c'est la goutte qui fait déborder le vase, là, parce que depuis des mois...
Et il était grand, le vase.
Exactement. Il y a plein d'événements qui sont survenus, puis on leur a promis que tout allait s'améliorer, puis finalement, il n'y a rien qui bouge.
Rien qui se fait.
Et là, pour ajouter l'injure à la blessure, c'est que... Il y a 38% d'augmentation sur le prix de l'essence qui est utilisé dans les grosses voitures des gens de classe supérieure qui sont parmi ceux qui sont critiqués. Alors que le kérosène avec lequel les gens qui utilisent en fait pour s'éclairer le soir parce qu'ils n'ont pas d'électricité, lui augmente de 50%. Alors là, c'est comme c'est le symbole de dire quand tu as besoin de quelque chose pour ta survie, c'est plus taxé que l'essence
c'est
qui est utilisée.
Toujours les pauvres qui payent. Exactement. En Haïti, c'est la grande partie de la population là-bas. Je suis d'accord avec toi.
Et là, il y a des morts dans les rues, évidemment, ben puis oui. Ça n'arrête pas et on ne voit pas le moment où ça va s'arrêter. Là.
Tant que cette élite corrompue et incompétente sera là, il n'y aura rien à faire. Ça ne va pas se régler.
Alors, puis ce n'est pas sur le point de se calmer, à ce qu'on nous dit non plus, parce qu'il y a eu des manifestations au cours des derniers mois qui, s'arrêtaient tout de suite après, mouraient dans l'œuf.
C'est parce que la police a du mal à être partout.
Exact.
Il n'y a pas de force armée comme telle. Et donc, les gens sont véritablement très choqués. Je pense que les gens commencent à réaliser ce qui se produit. Comme je te dis, je ne suis pas sûr que cette fois-ci soit la bonne, mais ce dont je suis certain, c'est que ce genre d'événement va se reproduire et que ça va être de plus en plus grave en Haïti.
Bon, pendant ce temps, Erdogan, lui, est assermenté.
Oui. Erdogan qui, d'ailleurs, pour son assermentation, a fait renvoyer 18 632 fonctionnaires.
Oui.
Oui, plus 1 000 personnes au département de la justice, plus 500 en éducation, plus 6 000 dans les forces armées. Alors, tu vois, il fête ça dignement. Il a fait une grande cérémonie de passation de pouvoir. Il a invité 7 000 personnes. Parmi invités, on trouvait toutes sortes de présidents très intéressants. Tu avais Viktor Orban de Hongrie qui était là, aux côtés, bien entendu, du premier ministre russe Dmitri Mendeleev et de Nicolas Maduro, tu vois, ce genre de personnage qui s'était rassemblé là. Le problème, c'est que maintenant, Erdogan est réellement un petit dictateur. Il y a de plus en plus de pouvoir. Il peut, par exemple, démettre tous ses ministres, renvoyer les fonctionnaires qu'il veut, gérer les ministères, tout ça, sans aucune approbation des élus. Alors oui, il a été élu dans une campagne qui est épouvantable, où l'opposition n'avait aucune place, tu sais. Et alors il continue. Donc il continue aussi à fermer des médias. Il a fermé d'autres médias. Je vois très mal comment on va arriver à se débrouiller avec cette Turquie qui, en plus des ambitions géopolitiques qui sont assez terrible parce que on voit bien qu'Erdogan, et il s'en cache à peine, veut reconstruire l'Empire ottoman.
Ouais.
Et il demande d'ailleurs aux femmes du pays de faire plus d'enfants dans un pays qui a des ressources très limitées en eau. Et quand tu veux faire ça, quand tu dis ça, ça veut dire, écoutez, faites attention parce que ça se pourrait qu'on envahisse d'autres pays à côté.
C'est ça, des visées expansionnistes.
Absolument. Je ne parle même pas des Kurdes, je ne parle même pas du problème de l'islamisme qui se répand partout en Turquie parce que lui-même pousse ça. C'est la politique de l'islamisme à petits pas qui met en jeu. Comme je te dis, c'est un gros problème pour l'OTAN. L'OTAN se réunit de toute façon à Bruxelles très bientôt. C'est qu'est-ce que tu fais avec ce pays qui n'est plus une démocratie, qui est hyper corrompu, qui est dirigé par un dictateur et qui en plus fait la promotion de l'islamisme.
Ouais.
Personne ne le dit comme ça, mais c'est ça la réalité des choses maintenant en Turquie. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Par qui les remplacer?
Pendant ce temps au Japon, la pluie continue à faire
des
victimes.
Elle a tombé jusqu'à de vendredi à dimanche. C'est des chiffres incroyables. Il y a 100 morts. Mais imagine, on a demandé à 5 millions de personnes d'évacuer leur maison. Et dans certains cas, les gens ont évacué sur le toit parce que les routes étaient complètement défoncées. Shinzo Abe, qui devait venir en Europe, passer par Russie, l'Arabie Saoudite et l'Égypte, a annulé sa tournée. C'est des inondations extrêmement impressionnantes. C'est suivi d'autres pluies. On craint des glissements de terrain parce que les terrains sont imbibés d'eau. C'est la pire catastrophe météo au Japon depuis 2011 où on avait eu deux typhons. Donc, on leur souhaite vraiment la meilleure des chances.
Bon, on en parlait tout à l'heure. Beaucoup d'agitation politique autour des voyages de Donald Trump en Europe.
Oui, Donald Trump qui va se rendre au sommet de l'OTAN. Il va se rendre en Grande-Bretagne et en Russie. Et d'ailleurs, on commence à se positionner là-dedans. Par exemple, aujourd'hui en Allemagne, Mme Merkel a reçu qui? La visite de Li Keqiang. Et Li Keqiang, c'est qui? C'est le premier ministre de la Chine.
Oui.
Parce que même si officiellement l'Europe et la Chine font pas front commun contre les États-Unis, il y a des ententes de plus en plus qui sont dans l'air. Et ça fait partie, ça, de cet ensemble, ouais. si tu veux, de problèmes des États-Unis qui sont en train de se retirer des affaires du monde, qui font pression sur leurs alliés pour que leurs alliés augmentent à l'OTAN les dépenses militaires à 2%, d'accord, mais quand ils augmentent leurs dépenses militaires, à qui penses-tu qu'ils achètent de l'armement? Aux Américains, bien entendu. Et c'est pour ça que les alliés des États-Unis ne sont pas toujours très heureux d'acheter de l'armement, parce que ça fait fonctionner l'industrie américaine, mais pas nécessairement la leur. Ouais. Et donc, il y a tout ce problème. Et puis, en plus que leur population a des problèmes, c'est, si tu achètes de l'armement, ben, c'est autant d'argent que tu ne mets pas ailleurs. Donc, il va aller là, il va aller, comme je le disais, en Grande-Bretagne, et surtout, il rencontre Poutine aussi après ça. Donc, on va voir ce qui va arriver. Il rencontre Poutine dimanche le 15 à Helsinki. Donc, on va vraiment bien s'amuser cette semaine avec Donald Trump qui va faire sa grande tournée européenne.
Et ce soir, à 21h, Donald Trump, d'ailleurs, pourrait annoncer son candidat à la Cour suprême.
Oui, pourrait, parce qu'on n'en est pas sûr. Hein. On sait qu'il avait déjà nommé un juge, Neil Gorsuch, à la place du juge qui aurait dû être nommé par Obama, en fait. Bon, mais les Républicains avaient fait obstruction. Il y a 4 candidats connus. Ça doit être confirmé par le Sénat. Il y a certains sénateurs démocrates, semble-t-il, qui pourraient soutenir le candidat de Trump, parce qu'il y a des élections qui arrivent à mi-mandat, et Trump est toujours très populaire à 42% dans la population. Or, ces candidats démocrates ne veulent pas perdre les électeurs, les partisans de Trump. Donc, ça se pourrait qu'ils appuient, imagine, un candidat ultra-conservateur que Trump proposerait à la Cour suprême. Et je dis proposerait parce qu'on ne sait toujours pas qui il va proposer. Ouais. Ceux qui sont en lice sont des gens qui sont effectivement ultra-conservateurs, mais il peut toujours nous réserver une surprise, ce brave Donald Trump. Comme il peut d'ailleurs ne pas nous annoncer aujourd'hui à 21h, comme c'est prévu, qui serait là. Hein. On verra ce qui va arriver.
Alors, on en reparlera sans doute demain.
Sans doute demain.
Loïc Tassé, merci beaucoup d'avoir
été avec nous. C'est un plaisir. À demain.